Et il y a encore un point commun, c'est que dimanche dernier, vous n'aviez pas un pasteur, et il s'appelait Yves aussi. Et on était à l'école à peu près en même temps. Bon, il y a une grande différence, c'est qu'il est devenu scientifique, et puis moi pas un du tout, mais voilà. Et en tout cas, quand on se connaissait à l'école, ni lui ni moi ne connaissions le Seigneur, et ça fait une introduction à mon message. Mon message, j'espère que ce soit simplement un encouragement à s'attacher à notre vocation, à notre nouvelle identité, à notre vocation aussi, d'une manière très globale. C'est pour ça que les enfants, les plus jeunes ou les personnes âgées, j'espère, pourront comprendre aussi ce message. Il y a un plan qui est assez simple pour que vous vous y retrouviez, parce qu'on va parcourir un peu les Écritures. C'est le projet de Dieu. Ensuite, notre nouvelle identité, quelques dangers et la part de l'homme dans tout ça. Voilà. Alors, j'introduirai par un verset dans les Philippiens qui dit « Ce que je demande, c'est la prière de Paul. Dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Qu'ainsi, vous sachiez apprécier ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable pour le jour de Christ, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Alors, je commencerai par ce verset qui va apparaître dans Jean 1, parle de la Genèse. Hein. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Voilà, verset 5, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Et c'est vrai que depuis la création, il y a une tentation au départ, et ensuite une volonté certaine d'indépendance par rapport à Dieu, de la part de l'homme. Et on peut dire aujourd'hui, dans notre siècle, dans cet instant T, on peut dire qu'il y a vraiment une accélération de l'émancipation collective, massive et je pourrais même dire orchestrée vers un détachement même de toute influence divine, de toute influence et même de la notion de Dieu, tout simplement. Une volonté massive et même orchestrée. Et ça, j'espère qu'on en est conscient. Et le verset suivant qui dira, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de l'homme, pardon, mais de Dieu. Voilà. Et j'espère que nous qui sommes ici, voilà, on fait partie de ceux qui ont cru, et donc on est quelque part des privilégiés. Si tu pouvais juste faire apparaître l'image suivante. Alors, j'étais dans un séminaire des écoles chrétiennes cet hiver, et puis il y a quelqu'un qui avait fait une introduction où il apportait ce schéma qui vaut ce qu'il vaut, hein, mais l'histoire de Dieu qui n'a ni commencement ni fin, et puis l'histoire de l'homme. Et la volonté de Dieu, parce qu'on est dans le plan, dans la volonté de Dieu, le plan de Dieu, c'est que l'homme rejoigne l'histoire de Dieu. Et il y a une grande différence entre Dieu qui invite l'homme à rentrer dans son histoire et l'homme qui invite Dieu, qui invite Dieu à agrémenter sa vie, son histoire à lui, à le sortir de ses combines. Hein. C'est bien souvent ce qui se passe. On crie à Dieu quand on a besoin de lui, et voilà. On est toujours dans le plan de Dieu. Si tu peux faire apparaître les versets suivants, Éphésiens, on va lire quelques versets dans Éphésiens, puisqu'on est dans le plan de Dieu, ce que Dieu a préparé pour nous. Nous ayons prédestiné, quelqu'un pourrait le lire si vous voulez, hein, Innocent qui a la parole facile, est-ce que tu veux lire ces versets? Prédestiné, hein. Ensuite, on peut lire le 7. Le verset 7, il était aussi... non, tu l'avais pas, le verset 7. Non, c'est pas grave. Alors, le 13-14, ouais. Voilà, on n'est pas tout seul, hein. Et puis ensuite, Éphésiens 2, verset 22, vous réalisez ça, une habitation de Dieu en esprit. Voilà. Qui sommes-nous, hein, mais... Et l'Église, c'est qui? C'est nous, voilà. Et c'est l'objet du message ce matin, qu'on puisse être puissamment fortifié dans cette identité, hein, et fondé dans l'amour. Ah, il manquait une partie. On était dans quoi? Non, mais c'est bon, on y est. Alors, Éphésiens 16, 3, 16. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ. Oui, ben, on peut s'arrêter là. Si on peut prendre le suivant, donc 20, 21. Voilà, peut-être juste encore un verset dans Éphésiens 5, 8 à 10, ouais. Voilà, donc, voilà le plan de Dieu pour ces créatures que nous sommes. Et nos livres d'histoire de l'Église sont remplis d'exemples d'hommes et de femmes, on va dire de héros peut-être, mais qui ont pas ou toujours eu cette vie et qui étaient pour certains, je sais pas, je veux pas me tromper, je sais pas si c'est Ruben Sylens justement, mais qui étaient des pécheurs notoires avant de se convertir et qui sont devenus des saints de Dieu, des saints hommes de Dieu. Alors, et nous aussi, on est rentrés dans cette histoire de Dieu. Yves et moi, on est rentrés dans cette histoire de Dieu un jour. Et alors, pour certains, on a un long parcours derrière nous, pour d'autres moins long. Et voilà, les choses ne coulent pas forcément de source. Un jour, Joseph et Marie sont partis pour une convocation religieuse, à une fête religieuse, je sais pas si vous vous rappelez, ils sont partis avec Jésus, il avait 12 ans. Ils sont partis avec une cohorte de frères et sœurs dans la foi, hein. Et, quand ils sont repartis de la fête, eh ben, ils ont marché 3 jours, ils se sont pas rendus compte qu'ils avaient marché sans Jésus. Alors, on peut se poser cette question, est-ce que je suis jamais parti au travail sans Jésus? Est-ce que je suis jamais parti en vacances sans Jésus? Et puis, j'aimerais dire plus, est-ce que j'ai jamais continué ma vie chrétienne quelque part, des fois, sans Jésus, même mon service pour Dieu, des activités, peut-être, à titre individuel ou même collectif, est-ce qu'on n'a pas des fois quelque part oublié Jésus? Vous voyez, on est tellement dans notre truc. Et il est quelquefois important de prendre notre température spirituelle à titre individuel, des fois ça se fait à titre collectif en tant qu'Église, hein. Est-ce que mon parcours de vie chrétienne m'a conduit aujourd'hui, par exemple, à de l'indifférence, à de l'indépendance, à de l'autosuffisance, à de la critique, à de l'amertume peut-être? Ou alors au découragement. Et ce qui nous encourage, c'est que Joseph et Marie, ils ont fait demi-tour et ils ont retrouvé Jésus. Ça, c'est quand même important. Et dans l'Apocalypse, il est question de se souvenir d'où on a peut-être oublié Jésus et de nous repentir et de retrouver justement notre premier amour. Et en fait, le chemin pour retrouver Jésus est souvent beaucoup plus court que celui qu'on a mis pour s'en éloigner. Il est des fois juste à la distance d'une prière, en tout cas d'un cœur à cœur avec Dieu. Je pense que ça nous est arrivé à tous de pouvoir passer en un instant d'un état d'amertume et par la visitation du Saint-Esprit, par un temps avec Dieu, en quelques instants de nous retrouver dans la paix, dans la joie. Ou alors de passer de la culpabilité à la paix. C'est pourquoi il est important, c'est pourquoi Jésus nous parle de fermer la porte de notre chambre, d'avoir cette bonne habitude, d'avoir des temps d'intimité avec Dieu, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, de s'abandonner à sa grâce, des fois sans même dire un mot, de simplement aller s'abandonner dans la grâce de Dieu. Et ce cœur à cœur avec Dieu est absolument indispensable à la vie du chrétien. Si je vous parle de un petit peu de ça, c'est que j'ai récemment eu des moments un peu compliqués dans ma vie personnelle, spirituelle. Voilà, j'ai pas abandonné Dieu, pas du tout, mais j'étais découragé parce que je vieillis, parce que je me rends compte que mes enfants commencent à quitter. Ça fait drôle, hein, la première fois où ils viennent plus avec vous en vacances. Je me suis dit, mince, j'avais prévu de faire tellement de choses avec eux, maintenant ils sont adultes. Est-ce que j'ai raté des choses? Et puis arrivé en fin de carrière, voilà, qu'est-ce que je vais me retrouver à la retraite? J'ai également arrêté volontairement de m'impliquer dans l'animation des scouts, et vous voyez, il y a des choses, des fois je veux pas dire c'est pas bon de vivre par ce qu'on fait, mais il y a des choses qui sont un moteur dans notre vie, et puis quand ces choses elles sont plus là, ben qu'est-ce que je suis, comment je suis utile à Dieu, et c'est d'où cette réflexion, mon identité en Dieu, et qu'est-ce que Dieu attend de moi aujourd'hui, quoi. Et j'en arrive à cette on a parlé un petit peu des dangers donc qui nous guettent, et j'en arrive à cette part de l'homme. C'est très global, c'est un verset qui est très global, qui n'a pas d'âge, qui s'adresse à tous, qui se trouve dans Michée 6:8. Qui suis et qu'est-ce que Dieu attend de moi finalement, hein? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et ce que je me propose maintenant, c'est de réfléchir avec vous sur ce verset dans ma vie, cette implication. Et j'avais lu, je crois que c'était dans un article du CEL ou du Christianisme Aujourd'hui, je ne sais pas, la justice doit se pratiquer. Et c'est vrai, c'est marqué dans ce verset, la justice doit se pratiquer. Il y a ce verset dans Romains 6, 13, tu l'as peut-être? Ne livrez pas, allez, innocent, tu vas continuer, hein, puisque faut que tu t'entraînes, hein, lundi ça redémarre, hein. Ouais. Offrir nos membres comme des instruments de justice, tout notre être comme des instruments de justice. La pratique de la justice du chrétien, et même de l'Église en général, donne du crédit au christianisme. Vous êtes d'accord, je pense. Il est écrit qu'il voit vos bonnes œuvres et qu'il glorifie Dieu le jour où il les visitera. On a tous déjà entendu à Radio Phare ou ailleurs le témoignage d'une maman chrétienne auprès de ses enfants. L'impact du témoignage d'une maman chrétienne, ou d'un papa, hein, l'impact d'un voisin chrétien, l'impact d'un collègue exemplaire et compatissant. Et tout ça, ça nous invite donc à... Tu peux mettre peut-être Proverbe, le verset suivant. Que la bonté, la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur, tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Je crois que on a, oui, devant Dieu, une responsabilité, et devant les hommes, de pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est également... prendre position quelquefois et sortir de notre zone de confort. C'est des fois plus facile de laisser aller que de prendre une position un petit peu instable pour nous, en tout cas qui vient déranger notre confort. Dans la notion de justice, il y a aussi la notion de vérité. Et on sait que le prince du mensonge, c'est le diable. Et il est écrit « Ce que tu désires, Seigneur, c'est la vérité au fond d'un cœur » dans le psaume 51. Alors, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, on le chante souvent, hein. Alors, j'ai relevé aussi que la justice se nourrissait. La justice se nourrit. Si on lit dans Philippiens 4:8, il est écrit, je vais vous le lire, Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voyez, on peut nourrir nos pensées, on peut nourrir notre âme. Il est dit aussi dans Proverbe 4, 23, « Veille sur ton cœur plus que toute chose, car de lui dépendent les sources de la vie. » Et j'ai pensé aussi à ce psaume 1, regardez voir ce que dit ce psaume 1. J'avais jamais vu ça comme ça, mais quand je l'ai relu, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la voie de l'Éternel, dans la loi de l'Éternel. » Et quelque part, s'asseoir sur le banc des moqueurs, voilà, on peut comprendre ce que ça veut dire, mais qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, c'est un peu vague, hein. Et je m'excuse, mais j'ai fait le parallèle où il y a ces jours où on rentre du travail, on est KO, et puis quelqu'un est en train de regarder la télé, on s'installe devant la télé là, et on gobe des choses, vous voyez, des programmes plus ou moins douteux, et on n'est pas en capacité même d'analyser, alors on est des éponges là. S'asseoir, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est pas ça. Alors c'est s'arrêter sur la voie des pêcheurs. Je pense qu'on peut entretenir la pensée de, enfin la justice, la pensée de Dieu dans nos cœurs, la foi aussi en la nourrissant d'une bonne manière. Voilà, parce que souvent on se désaltère, comme dit la Bible, auprès des citernes crevassées de ce monde. Il est dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Moi, je ne le fais pas assez. Et attention aussi à la justice, parce que la justice, Saul de Tarse, il exerçait la justice, hein. Attention aussi à la justice qui est basée sur nos propres principes. Des fois, avec les années, on prend de l'assurance et on pense que ce qu'on pense, c'est juste. Et on a oublié Jésus, alors on impose une justice qui est simplement notre conception des choses, et là, on peut faire des dégâts. À titre individuel ou collectif, on peut être une occasion de chute pour quelqu'un qui, quelque part, aime Jésus. Jésus nous dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. » Et on arrive au point suivant du verset de Michée. Donc que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. La justice sans la grâce, eh ben elle rend dur. On peut penser aux gens, à ces hommes, à ces femmes devant la femme adultère. Alors ça c'est facile pour nous parce que c'est écrit, on sait que c'est des méchants et tout qui sont durs. Mais on peut penser à nous-mêmes aussi quand on croise un drogué, un délinquant. Ou quand on croise, excusez-moi, mais un homosexuel, nous, bons chrétiens, là, quelles sont les pensées de nos cœurs devant les créatures de Dieu, là? Est-ce qu'on a la même pensée que Christ? Que tu aimes la miséricorde? Et là, on voit Jésus devant cette même femme qui connaît très bien son péché, hein, qui ne l'approuve pas du tout, qui n'est pas léger, mais qui va avoir une autre attitude. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Soyez miséricordieux, comme notre Père est miséricordieux. Jacques nous dira, le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et alors, la miséricorde, la grâce, n'a rien à voir avec la légèreté par rapport au péché. Parce que, vous voyez, des fois, ça peut être ambigu. Oh, ben moi, ça, voilà, ça me choque pas, voilà. Non, la légèreté par rapport au péché, c'est encore autre chose. La conscience émoussée, vous voyez, où on ne voit plus la gravité du péché. La miséricorde, c'est bien autre chose. Le péché, que ce soit ceux des autres ou les nôtres, doit toujours nous ramener là où le Christ s'est offert en victime. Donc c'est grave, le péché est très grave. Mais la miséricorde, c'est autre chose. Et la Bible elle nous dit même qu'un ami qui a abandonné la voie du Seigneur, il a droit à la compassion de son ami. On va lire un verset parce que je le trouve, enfin plusieurs versets dans Ésaïe 57 de 15 à 19 qui nous fait bien ressentir la pensée de la grâce de Dieu. Quelqu'un veut le lire? Le frère d'Innocent, il a la même élocution qu'Innocent. Je sais pas si, enfin moi, ça me touche beaucoup de voir le cœur de Dieu et la différence entre le cœur de Dieu et le mien. Voyez, Dieu parle à l'homme là et il dira, tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit établi par son Dieu. Des fois, on est en colère contre Dieu, on aimerait qu'il fasse justice, voyez. Il me demande des arrêts justes. Il désire l'approche de Dieu. Et il est dit un peu plus loin. Il est dit un peu plus loin. Ce que Dieu répond. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens du joug. Renvoie libre ce qu'on écrase. Et qu'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et amène à la maison les pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant, les discours de rien du tout. Si tu offres à l'affamé ce que tu désires toi-même, si tu rassasies l'appétit de l'indigent, ta lumière se lèvera sur les ténèbres et ton obscurité sera comme le midi. L'Éternel te guidera constamment, il te rassasiera dans les lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Ça, c'est une promesse de Dieu. C'est Dieu qui s'engage, là. Hein? C'est Dieu qui s'engage. Et il y a un rapport dans la miséricorde, il y a un rapport avec l'humilité aussi, parce que l'orgueil, souvent, guette celui qui a beaucoup de connaissances, et même de connaissances de Dieu. Et on arrive à la partie suivante de ce verset de Michée. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, j'ai noté la différence entre marcher humblement avec son Dieu et marcher religieusement devant les hommes. C'est une grande différence, hein. Et il y a une notion de dépendance dans marcher humblement avec son Dieu. Il y a vraiment une notion de dépendance. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous. Je suis le cep, vous êtes les sarments et hors de moi, vous pouvez rien faire. Il y a vraiment une notion de dépendance, marcher humblement avec son Dieu. Ça nous appelle à la reconnaissance aussi, c'est Dieu qui le dit. Hein. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance, Dieu apprécie qu'on soit reconnaissant. C'est pas par nos efforts, et même si c'est par nos efforts qu'on a obtenu quelque chose, c'est Dieu qui a permis qu'on en soit capable. Et invoque-moi au jour de la détresse. Dieu veut cette dépendance, il veut qu'on l'invoque au jour de la détresse. Pas qu'on cherche à se dépatouiller, qu'on se plaigne contre tout le monde. Invoque-moi au jour de la détresse et tu me glorifieras. Alors, marcher humblement avec son Dieu, il y a également l'aspect de marcher et pas de stagner. Et ça nous rappelle que dans l'histoire, les temps avancent et qu'on se rapproche du retour de Jésus, en tout cas de notre rencontre avec lui. Et qu'il est temps de relever la tête. Il est temps de relever la tête, ça nous rappelle. Vous savez, quand Élisée voyait toute cette armée-là, ce combat qu'il y avait, et son serviteur ne voyait rien du tout, il était aveugle à ces choses, ça nous rappelle aussi qu'on est dans une guerre. Et il faut qu'on se rappelle qu'on est dans une guerre, c'est les vacances maintenant, alors on va se reposer, mais il faut qu'on se rappelle qu'on est dans une guerre, et quelque part, on peut pas s'arrêter, on est en marche. Marcher humblement avec son Dieu, on ne part pas en vacances sans Jésus, hein. Emmenez Jésus avec vous, pas seulement la Bible, hein. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. On est en marche. Et quand je vois ce passage, marcher humblement avec son Dieu, je vois aussi un papa ou une maman avec son enfant qui lui tient la main. Et sur cette image d'un enfant qui tient son papa ou sa maman par la main, j'ai ce verset qui me vient à l'esprit. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car vous serez appelés fils de Dieu. Et il est beau de procurer la paix, alors des fois dans des organismes, des organisations, mais aussi au sein de notre foyer, hein, au sein de notre foyer, au sein de notre entreprise, de procurer la paix. Aussi, la paix, pas seulement par rapport à un conflit, mais on a des, moi je sais pas, j'ai des collègues de travail qui sont angoissés, des gens qui sont angoissés, vous voyez. Et il y a des gens qui profitent, qui aiment jouer avec ça, des collègues qui aiment bien piquer. Procurer la paix aussi à quelqu'un qui est angoissé, qui est pas sûr, vous voyez. Dieu nous appelle à procurer la paix, à rassurer ceux qui sont fragiles, qui manquent de confiance. Nous avons tous des occasions de donner des petits instants de vie à des personnes et faut pas s'en priver. Pourquoi je dis ça? C'est parce que Dieu nous donne des instants de vie, des fois, des petits cadeaux. Je sortais justement du travail avec le collègue le plus pénible de l'entreprise, un râleur, un revendicateur qui me met les bâtons dans les roues et tout, quand, voilà, il est, voilà, bref. Et je fermais là, l'entreprise, je fermais la boutique, hein, on va dire. Et puis là, on était tous les deux un magnifique arc-en-ciel. Mais on était les deux là, on était émerveillés les deux. Dieu nous donne après une semaine chargée, vous voyez, peut-être avec des conflits même. Et là, Dieu nous donne ces petits instants de vie. Et nous, on peut donner des instants de vie à nos contemporains. Récemment, ma femme a fait un petit accident de voiture et puis il y a quelqu'un qui s'est arrêté puis qui lui a rendu un service. Elle m'a dit, mais c'est super d'avoir pu être aidé comme ça. On peut donner des instants de vie et c'est notre rôle, ça fait du bien. Ça fait du bien. Je vais vous lire en tout cas le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération, aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu. Je continue. Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de la cendre, de l'huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel. Et vous remarquez, afin qu'on les appelle, c'est qui les ? C'est nous, hein ? Afin qu'on les appelle térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel, pour servir à sa splendeur. Et ça, c'est nous, hein. Et vous savez ce que c'est un térébinthe, hein? C'est un arbre, c'est un conifère qui pousse dans les terres les plus arides. Je me trompe pas, hein. Dans les terres les plus arides. Et voilà, à quoi on est appelé? À devenir des térébinthes dans ce monde compliqué. Et je conclue donc, je termine parce que je veux pas vous embêter quand même trop longtemps, hein. Je vais terminer. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est bien des fois de revenir à des choses très élémentaires pour se rappeler ce que Dieu attend de nous. Et je vais terminer avec, je crois qu'il y a 4 versets pour terminer. C'est la conclusion, c'est des choses qu'on a déjà vues, on reprend le plan. Non, ça c'est la fin. Éphésiens 1:5. Sinon, je les lis, hein, voilà. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants, adoptés par Jésus-Christ, selon le bon plan de sa volonté. Ensuite, Éphésiens 5:8, voilà. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Voilà. Ensuite, Ésaïe 61, on vient de le lire, appelé térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel pour servir à sa splendeur. Et puis, j'avais noté encore Ésaïe 58, 12, c'est ça? Non, ben je le lis, tout simplement. Ésaïe 58, 12. Grâce à toi, on rebâtira sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondations passées, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Qui rend le pays habitable. Si on peut, quelque part, participer à rendre le pays habitable. Et je terminerai avec ce verset. Voilà, Jésus nous promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, j'espère simplement... j'avais préparé ce verset, ce petit message pour m'encourager moi-même. J'espère que ça peut nous encourager aussi dans notre vocation globale, hein, avec notre nouvelle identité en Christ, qu'on puisse se fortifier et s'encourager mutuellement. Voilà, si quelqu'un veut bien prier. Peut-être Yves, tu veux prier ?